Bonsoir et bienvenue dans le feuilleton de France Culture. Ce soir et tous les soirs de cette semaine, fiction et histoire se croisent en direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Mais 68 s'est beaucoup écrit à travers les affiches, les slogans. Deux historiens l'ont très vite compris, Pierre Vidal-Naquet et Alain Schnapp ont collecté tout ce qu'ils pouvaient trouver dans les rues, dans les poches, les salles de réunion, auprès de leurs amis. Parmi plusieurs milliers de tracts et de journaux, ils ont retenu 362 textes, reproduits et commentés dans un livre intitulé « Journal de la commune étudiante, textes et documents, novembre 1967-juin 1968 », un livre paru dès le début de l'année 69. À l'occasion de la réédition de cet ouvrage aux éditions du Seuil, nous avons proposé à Sophie Maurer, écrivain universitaire, de composer un feuilleton polyphonique en taillant un chemin dans tous ces documents. Voici donc ces pages volées au journal de la commune étudiante. On retrouve tout de suite le réalisateur Christophe Hoquet et son équipe en direct du studio 118 de la Maison de la Radio.
Épisode 4, le mouvement étudiant dans la grève du 16 au 31 mai.
La deuxième moitié du mois de mai semble plus longue que la première. Le temps passe moins vite. Les manifestations ne se succèdent plus à un rythme journalier. Le mouvement étudiant devient double selon l'heure. Mouvement de jour des facultés avec assemblée générale réformiste ou révolutionnaire, mouvement de nuit ininterrompu des comités d'action, des groupes politiques qui bandent de manière désespérée toutes leurs énergies vers la classe ouvrière. La cadence des masses en grève est différente. Les temps de ces deux mouvements se croisent, se superposent et se séparent. Face à la montée de la grève, les 16 et 17 mai, des comités travailleurs étudiants, organes de discussion, de collecte et de liaison, s'organisent. Tract du 16 mai, appelant à la tenue de 100 meetings le lendemain soir en région parisienne.
Camarades travailleurs, après une semaine de pavés, de CRS et de gaz de combat, les étudiants de Paris ont occupé la Sorbonne.
Elle est devenue l'université autonome et populaire de Paris.
Cela veut dire que...
Petite 1.
Nous y sommes chez nous. Nous avons pris le pouvoir, nous n'admettrons plus les ordres imposés d'en haut.
Petit 2. Nous refusons l'éducation qu'ils nous imposaient, car nous refusons de devenir vos futurs chefs exploiteurs. Petit 3.
Dès maintenant, la Sorbonne appartient aux ouvriers aussi. Nous prenons ensemble la décision d'action.
Petit 4. Nous y voulons la présence d'ouvriers, et s'ils nous le demandent, nous organiserons des cours sur les questions qui les intéressent et sur tout l'enseignement secondaire dans les usines, le soir. Petit 5.
Il y a entre vos problèmes et les nôtres les ressemblances certaines.
Emploi et débouchés.
Normes et cadences.
Liberté syndicale.
Autogestion.
Camarades travailleurs.
Rejoignez-nous à l'université.
Accueillez les étudiants dans vos entreprises comme on vous accueille à la Sorbonne.
Dans l'actuel régime universitaire, les étudiants sont dressés à devenir les cadres flics de vos usines. On veut contraindre les étudiants à devenir les oppresseurs des ouvriers. Désormais, ils refusent de jouer ce rôle. Maintenant, il est indispensable que les étudiants et les ouvriers prennent contact et se comprennent s'ils veulent élaborer ensemble des objectifs communs. Travailleurs, les étudiants iront dans vos usines et dans vos quartiers. Travailleurs, les universités vous seront ouvertes. Informez-vous. Rejoignez le comité d'action travailleurs étudiants. Sorbonne, escalier A, première étape.
Nos ouvriers ont du temps. À 4 heures le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Je travaille en 4-8 à la Rodia Beta.
Dans la soirée du 16, des centaines d'étudiants gagnent Billancourt et discutent aux portes de l'usine Renault avec de jeunes ouvriers. Une marche des étudiants vers Billancourt est prévue le lendemain. La CGT Renault réagit vivement dans un communiqué qui prend la forme d'une fin de non-recevoir.
Nous apprenons l'organisation d'une manifestation des étudiants et des enseignants cet après-midi en direction des usines Renault à Billancourt. Cette décision a été prise sans consultation des organisations syndicales CGT, CFDT et FO. Nous apprécions vivement la solidarité des enseignants et des étudiants dans le combat contre le pouvoir personnel et le patronat. Nous sommes opposés à toute initiative inconsidérée qui pourrait compromettre notre mouvement en plein développement et faciliter une provocation amenant une intervention gouvernementale. Nous déconseillons vivement aux initiateurs de cette marche de maintenir cette initiative. Nous entendons, avec les travailleurs en lutte pour leurs revendications, diriger notre grève. Et nous refusons toute ingérence extérieure conformément à la déclaration commune des trois syndicats CGT, CFDT, FO qui qui a été appelé ce matin par 23 000 travailleurs de l'usine au cours d'un meeting.
Le 18 mai, la grève s'étend encore. L'effort de structuration et d'organisation des comités d'action se poursuit. Information action numéro 1, journal renéotypé émanant de la coordination des comités d'action.
Il ne suffit pas de tirer des bilans satisfaits.
Le pouvoir se prépare à briser notre mouvement par la violence de la police.
Les manipulations de la presse.
Les subtilités des libéraux.
Des mandarins.
Et des gaullistes de gauche.
Le développement de la lutte chez les travailleurs fait trembler le pouvoir.
Sa répression risque d'être d'autant plus forte.
Nous devons nous organiser.
À la base, dans l'action.
Pour l'action. Les comités d'action sont le seul moyen pour notre mouvement de poursuivre sur tous les fronts la lutte engagée.
Qu'est-ce qu'un comité d'action ?
Ce sont des unités de faible dimension, de 10 à 30 personnes. Car s'ils sont faits pour la discussion, ils sont surtout fait pour l'action.
Quand il y a une assemblée de 200 personnes...
Scindez-la en 10 comités.
Chaque comité se réunit tous les deux jours.
Chaque comité envoie un délégué à la réunion quotidienne de coordination.
Chaque comité prend contact avec les comités voisins.
Dans la soirée du 18, les groupes fascistes manifestent.
Assez de drapeaux rouges par milliers. Sur les monuments publics, dans les cortèges, les manifestations, dans les amphithéâtres.
Assez de l'international chanté point levé par les manifestants.
Assez du drapeau français profané, déchiré, brûlé sur les places publiques, transformé en torchon ignoble.
Et la tombe du soldat inconnu souillée.
Assez de l'anarchie qui s'installe.
L'université transformée en cloaque.
Le CNRS en révolution culturelle.
Les grèves tournantes.
L'Odéon transformé en dépotoir.
Les fresques de la Sorbonne recouvertes de peinture.
Plus de lois, plus d'autorité. La révolution communiste se prépare et marque chaque jour des points pour combattre la subversion qui profite du désordre. Tous place de l'Étoile.
Solidaires avec les cheminots à Bucardi.
Le 19 mai, la grève gagne la SNCF et la RATP.
Et si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non.
À quoi les étudiants répondent immédiatement. La chienlit, c'est lui. Les marxistes-léninistes appellent à leur grand meeting de la mutualité dans un tract intitulé « Le drapeau rouge des ouvriers flotte sur Renault ».
La division des forces ouvrières
et la collaboration de classe, qui est devenue la règle même au niveau de la direction confédérale de la CGT,
ont empêché que les luttes de masse conduisent à la chute du régime antipopulaire de chômage et de misère.
Le drapeau de la lutte est passé entre les mains du prolétariat.
Les directions du PCF et de la CGT ont d'abord attaqué de manière ignoble le mouvement progressiste des étudiants.
Dans les mêmes termes que le gouvernement.
Mais les ouvriers ont compris.
Le pouvoir est affolé.
Une force immense se lève aujourd'hui.
Intense. Mais la réflexion universitaire et l'action politique se juxtaposent sans s'intégrer. Pendant ce temps, les situationnistes écrivent sur les murs, à Strasbourg et à Paris.
Ceux qui parlent de révolution et de lutte des classes sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subversif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont, dans la bouche, un cadavre.
Qu'est-ce que tu fais dans le coin ?
J'attends le matin du grand soir. Mais surtout le grand soir, pour prendre du plaisir à leur griller les poils sous les bras. Pour pendre les propriétaires et couper les curés en deux, je vais aiguiser ma dialectique sur des situations bandantes.
As-tu résolu la question de l'organisation ?
Après, les conseils ouvriers seront réalisés dans l'autogestion générale.
Les situationnistes impriment le 20 mai un tract intitulé « Le crachat sur l'offrande ».
Camarades, la fureur de vivre qui déferla sur le quartier latin a jailli dans l'histoire comme une de ces prodigieuses bouffées de joie qui prennent à la gorge un monde où la garantie de ne plus mourir de faim s'échange contre la certitude de crever d'ennui. À l'aube rouge des fêtes insurrectionnelles, le vieux monde crépusculaire d'Est et d'Ouest partout vacille en ses brasiers.
Tokyo,
Berlin,
Los Angeles,
Prague,
Turin,
Varsovie,
Stockholm.
Noyau de résistance lucide, les minorités agissantes doivent engager une permanente guérilla de harcèlement contre le pouvoir.
Sabotage,
falsification,
détournement,
fraude,
boycott.
Que la créativité en liesse se donne libre cours. Tempête démoniaque des jouissances illicites.
Tout finira bien un jour.
À redescendre dans la rue.
Vieux monde traqué.
Tu t'essouffles.
On te crèvera.
Charogne.
Vive la révolution de la vie quotidienne.
Le 22 mai, la CGT, suivie de la CFDT, fait savoir qu'elle est prête à négocier avec le gouvernement de Georges Pompidou. Le même jour, on apprend que Daniel Cohn-Bendit, en Allemagne depuis peu, est frappé d'une mesure d'interdiction de séjour. Une manifestation a lieu en fin d'après-midi. Nous sommes tous des juifs allemands. De graves incidents ont lieu le lendemain au quartier latin. De part et d'autre, on parle de provocation et des provocateurs. Communiqué d'action travailleurs étudiants intitulé « D'où viennent les provocateurs ?» Censier, 24 mai 1968.
Fouché déclare, de sources sûres, je sais que des éléments troubles qui ne sont pas des étudiants se mêlent aux manifestants. Devant ce danger, le ministre de l'Intérieur appelle à ne pas se mettre inconsidérément du côté des provocateurs. De sources sûres, on apprend en effet
que le gouvernement a décidé l'envoi d'importantes forces de police
place Saint-Michel,
alors que rien ne le justifiait.
Que parallèlement,
le gouvernement a envoyé des provocateurs
repris de justice, délinquants, auxquels il a promis des remises de peine
afin d'engager le combat contre la police.
Cette manœuvre a été faite
à l'insu même des forces de police.
Pourquoi ?
Parce que le gouvernement n'est pas sûr de la police.
Et ne peut la reprendre en main qu'en créant un climat insurrectionnel.
Parce que le gouvernement,
en suscitant le chaos,
veut justifier
la répression générale.
Le vendredi 24 mai, à Paris, tandis que la CGT organise deux manifestations, à la Bastille et place Ballard, l'UNEF, les comités d'action lycéens, les comités d'action, le mouvement du 22 mars, convoquent à une démonstration centrale à la gare de Lyon. Le tract du mouvement du 22 mars, fervent plaidoyer pour l'unification des luttes, s'intitule « Votre lutte est la nôtre ».
Nous occupons les facultés.
Vous occupez les usines.
Les uns et les autres.
Nous battons-nous pour la même chose ?
Il y a 10% de fils d'ouvriers dans l'enseignement supérieur.
Est-ce que nous nous battons pour qu'il y en ait davantage ?
Ce serait mieux, mais ce n'est pas le plus important.
Qu'un fils d'ouvrier puisse devenir directeur ?
Ça n'est pas notre programme.
Il y a des étudiants qui, à la sortie de l'université, ne trouvent pas d'emploi. Est-ce que nous combattons pour qu'ils en trouvent ?
Ce serait mieux, mais ce n'est pas l'essentiel.
Ces diplômés de psychologie ou sociologie deviendront les sélectionneurs, les psychotechniciens, les orientateurs qui essaieront d'aménager vos conditions de travail.
Les diplômés de mathématiques deviendront les ingénieurs qui mettront en point des machines plus productives et plus insupportables pour vous.
Nous refusons d'être utilisés au profit de la classe dirigeante.
Nous voulons construire une société sans classe.
Le sens de votre lutte est le même.
Vous revendiquez le salaire minimum à 1000 francs,
la retraite à 60 ans,
la semaine de 40 heures,
payée 48.
Ce sont des revendications justes et anciennes.
Elles paraissent pourtant sans rapport avec nos objectifs.
Mais
En fait,
vous occupez les usines.
Vous prenez les patrons comme otages.
Vous faites la grève sans préavis.
Ces luttes sont plus radicales
que vos légitimes revendications.
Elles sont politiques, au vrai sens du mot. La forme de votre lutte nous offre, à nous, étudiants, le modèle de l'activité réellement socialiste.
Il faut détruire tout ce qui isole les uns des autres.
L'habitude, les journaux, etc. Vive l'unification de nos luttes.
Le service d'ordre de la CGT parvient à empêcher toute jonction entre cortège étudiant et défilé syndicaliste. Les étudiants, eux, sont rejoints par de nombreux groupes de jeunes ouvriers et de jeunes chômeurs, par des éléments anarchistes, voire par des bandes venues des grands ensembles. Très vite, sur la rive droite, un barrage policier les empêche de gagner l'hôtel de ville. Des barricades sont dressées, des groupes occupent la Bourse des Valeurs et y allument un incendie. Sur le boulevard Saint-Michel, des barricades apparaissent à nouveau. La Sorbonne est transformée en hôpital et en camp retranché. La nuit se passe dans l'atmosphère des gaz lacrymogènes. Le lendemain, du côté étudiant, une angoisse se fait jour, mêlée à une volonté d'explication. Le comité d'action travailleurs étudiants publie un nouveau tract intitulé « Que faire ?».
La question du pouvoir est maintenant posée.
Il ne s'agit pas du remplacement d'un gouvernement par un autre, ni même d'un régime par un autre.
Il s'agit de l'instauration du pouvoir de toute la classe travailleuse sur toute la société, de l'abolition de la société de classe.
Tout objectif
en deçà de celui-là
trahirait le sens profond de ce mouvement.
Un tract dans le même ton est imprimé par les comités d'action ouvriers étudiants.
Il y a du louche, dit le ministre. Il y a du louche, affirme la CGT. C'est vrai, il y a du louche. Travailleurs, étudiants, ne te laisse pas intoxiquer par la campagne de mensonges menée par le gouvernement, par certains dirigeants du PC et de la CGT, par la presse et la radio. Explique à tes camarades le but de l'opération qui vise à faire retomber sur nous la dalle du conformisme, de l'acceptation de l'ordre social capitaliste.
Le 25, toujours, un tract de la coordination des comités d'action.
Le pouvoir, qui n'a plus de facultés,
plus d'usines,
plus de transports,
plus de radio,
n'a plus que ses flics pour se défendre.
C'est lui seul
le véritable provocateur.
C'est De Gaulle
appelant au plébiscite par le chantage à la guerre civile.
C'est Pompidou décrétant aujourd'hui
la terreur policière.
C'est Fouché hurlant sa haine raciste contre la pègre.
Les provocateurs, ce sont eux.
La pègre, c'est ce ramassis de privilégiés qui se cramponnent au pouvoir
contre la volonté populaire.
Les provocateurs, ce sont ceux qui n'ont plus pour seule légitimité que les matraques et les grenades. Contre la provocation, une seule réponse, l'unité dans l'action des travailleurs et des étudiants, l'organisation du combat pour que triomphe la volonté populaire.
I will walk and I will play, but the day after today I will stop and I will stop.
Just one kiss, why can't I get just one kiss? Believe me, there's something that I wouldn't miss. But I look at your pants and I need a kiss. Why can't I get just one fuck? Why can't I get just one fuck?
I guess it's all the same to do it
all. But I waited my whole life for just one day. Just one day. After today I get angry and I will say that the good in my side. When I take a bow and say goodnight.
Pendant ce temps, gouvernement, patronat et syndicats se réunissent au ministère des Affaires sociales. Le lundi, un procès-verbal est dressé et aussitôt rejeté par les travailleurs de Renault, puis par les autres métallos. Le mot d'ordre de gouvernement populaire prend un nouveau départ. La manifestation prévue par l'UNEF a lieu au stade Charletti et rassemble entre 50 et 60 000 personnes. La présence de Pierre Mendès France, la prise de parole d'André Barjonnet, responsable démissionnaire de la CGT, donne à penser à beaucoup qu'un tournant politique décisif a été pris. Le mardi 28, Mitterrand se prononce en faveur d'un gouvernement transitoire de gauche. La Fédération et le Parti communiste se rencontrent. En revanche, la réunion des comités d'action du mouvement du 22 mars et de la JCR en vue de la constitution d'un mouvement révolutionnaire unifié échoue. Le lendemain, derrière le mot d'ordre « gouvernement populaire », le Parti communiste et la CGT organisent une manifestation, sans l'UNEF, qui avait posé comme condition préalable une protestation de la CGT contre l'interdiction de séjour de Daniel Cohn-Bendit. La manifestation rassemble plusieurs centaines de milliers de personnes dans une tension palpable. De Gaulle s'envole pour Colombey, en passant par Baden-Baden. Pierre Mendès France accepte l'hypothèse d'un gouvernement dont la direction lui serait confiée par l'ensemble de la gauche. Le 30 mai, à 16h30.
Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution.
Un tract très mal imprimé de l'UNEF.
10 ans de gaullisme.
Des siècles d'exploitation.
Ça suffit.
Ce que veulent ouvriers et étudiants.
C'est le pouvoir.
De Gaulle use de la caresse et du bâton.
Le bâton, nous connaissons bien maintenant.
C'est l'appel à la guerre civile.
La marche vers un éventuel régime fasciste.
De Gaulle défend son régime.
Celui de la bourgeoisie.
Il ne pourra plus désormais se maintenir.
Qu'en organisant la violence.
Il faut continuer la lutte.
Les manifestations de masse sont nécessaires.
Elles ne sont pas suffisantes.
Le problème du pouvoir ne se résout pas par des bulletins de vote.
Mais en continuant la grève.
L'occupation.
Et en s'organisant sur nos lieux de travail.
C'est-à-dire en prenant en charge nous-mêmes la vie de nos facultés, de nos usines.
Au terme d'une laborieuse mise en scène, De Gaulle vient de lancer un avertissement au pays.
Usant d'un anticommunisme sénile.
Il a évoqué les menaces du coup de force et de la guerre civile, pensant ainsi provoquer à son profit un grand vent de panique nationale.
Mais à qui peut-il encore faire peur ?
Certainement pas aux ouvriers qui occupent les usines.
Certainement pas aux étudiants qui occupent les facultés. Que peut ce régime moribond contre les millions et les millions de travailleurs en grève ?
La violence du ton employé par De Gaulle est celle d'une rage impuissante face à la volonté populaire. Le pouvoir n'a plus pour le soutenir que les barbouzes des comités d'action civique.
Il n'a plus pour le défendre.
Que ces flics.
Avec les flics.
Les travailleurs, les étudiants savent comment s'y prendre.
Ils l'ont prouvé.
De Gaulle peut aboyer.
Face au régime qu'il incarne, la force du combat des ouvriers et des étudiants est irrésistible.
Cette force, nous devons l'organiser systématiquement dans les comités d'action, réunissant les travailleurs,
les étudiants,
la population des quartiers
et des localités.
Renforçons notre organisation dans l'unité,
à la base
et dans l'action.
Soutenons et popularisons la défense par les travailleurs de leurs entreprises.
Organisons dès maintenant les formes nouvelles
du pouvoir populaire
dans les usines,
les facultés,
les localités
et les quartiers.
Chaque comité d'action doit se lier avec les comités de grève des entreprises environnantes, discuter des objectifs et des formes du pouvoir populaire à tous les niveaux et réaliser dès maintenant tout ce qui est possible.
Le gaullisme n'est plus qu'un fantôme.
Le peuple n'a pas peur des fantômes.
Nous vaincrons.
Tract anarcho-surréaliste du 31 mai 1968.
Les égouts de Paris ont dégorgé tous leurs rats tricolores.
Quand le chef emboucha le clairon des bien-pensants,
bien protégés
par les biens matraquants
et les biens mitraillants de l'ordre sacré,
tous les rats maquillés de croix de Lorraine ont vomi
leur sanie patriotique.
La France aux Français.
Que surgissent,
hérissés de fer et de feu,
les frontières.
Prions ensemble le dieu des bourgeois. Capitonné de capitaux.
Allons, mes frères, réanimer la flamme des ardeurs centenaires.
Il crie.
Vive la France.
Mais il pense.
C'est pense Afrique.
Que vivent nos gros sous.
Inconnus de leur arc des triomphes sanguinaires.
Dresse-toi.
Dresse ta colère.
Général.
Non.
Jeune homme de bonne famille.
Non.
Mais un pauvre gars du peuple.
Usine ou terre.
Fatigue, oppression.
Dresse-toi.
Inconnus au corps éclaté.
Repousse leur floraison infâme de fanions et de banderoles.
Trempés dans la sueur et le sang de tes frères.
Les travailleurs.
Dresse-toi.
Petit gars à la gueule éclatée.
Et jette.
Sur leur foule de rats puants.
La peur.
La grande flamme rouge
de l'international.
Journal de la commune étudiante de mai 68. D'après Alain Schnapp et Pierre Vidal-Naquet. Présentation et choix des documents, Sophie Maurer. Avec Florence Mazot, Hector Manuel, Joachim Pavi, Georges Slovic, Judith Zins, Rose Martine et Eugène Marcuse. Musique originale composée et interprétée par Stéphane Bissière. Avec la participation de Lucas Valero. Prise de son, montage, mixage, Bruno Mourlan, Dalia et Lucas Vaillant. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation en direct de Christophe Hoquet. Le journal de la commune étudiante est publié aux éditions du Seuil.
Ils font l'amour le samedi. Ça n'importe quand, les méchants, ils craindront le cul béni, les gentils, ils craindront le cœur content, les méchants.